Voilà, mais je remercie évidemment les organisateurs de nous avoir conviés à ce magnifique programme aujourd'hui. Alors, je vais pouvoir gagner un peu de temps parce que l'introduction a très bien été faite par Jean-Marie, donc on va pouvoir passer mes premières dia, donc ce qui me remettra dans le timing pour respecter le temps, puisqu'effectivement, je vous présentais certaines choses pour vous, on va dire, vous donner la situation de prise en charge. Et donc, c'est vrai que les échanges plasmatiques thérapeutiques ont un intérêt dans la pathologie qui nous occupe, donc dans les alloïmisations, que dans un certain dans une certaine groupe de patientes, et notamment, on l'a vu, les patientes qui ont une pathologie extrêmement sévère et qui vont nécessiter une transfusion in utero extrêmement précoce. Et donc, effectivement, Jean-Marie l'a dit, le taux de survie de ces patientes qui vont bénéficier d'une transfusion in utero est relativement bon, on voit entre 88 et 100% en fonction de la population. Par contre, il y a quand même des complications qui existent et ces complications augmentent très fortement lorsque ces transfusions in utero doivent être faites avant 20 à 22 semaines. Jean-Marie l'a dit dans son introduction, on voit qu'alors le taux de survie chute entre 76 et 88% et le risque de mort in utero avant 20 semaines est augmenté de 4 fois. Et donc, pour essayer d'améliorer le pronostic des alloïmisations particulièrement sévères, il y a différentes stratégies thérapeutiques qui ont été proposées. La première chose, c'est d'essayer de modifier la technique, on va dire, de transfusion in utero. Et l'équipe de Leiden propose notamment de ponctionner de manière préférentielle dans les transfusions in utero précoces la veine intrahépatique, qui est alors plus facile d'accès, puisque lorsque vous devez aller dans le cordon, le vaisseau mesure de 3 à 5 mm avant 20 semaines, ce qui est extrêmement compliqué, avec un risque de thrombose du vaisseau. Et puis, il y a d'autres techniques, des techniques non-invasives. Hein. Donc, Jean-Marie nous a déjà parlé des immunoglobulines intraveineuses. Et donc, moi, je vais vous parler maintenant des échanges plasmatiques thérapeutiques dans ce cadre de prise en charge. Alors, les échanges plasmatiques thérapeutiques, c'est une technique d'épuration sanguine extracorporelle qui permet d'éliminer du plasma des molécules de haut poids moléculaire, des substances ayant une longue demi-vie et des substances présentant une toxicité aiguë ou une résistance aux thérapies conventionnelles. Vous voyez que dans notre équipe à Bruxelles, en 2014, eh bien, les indications, on va dire, obstétricales représentaient 16% à peu près des indications d'échange plasmatique dans le service d'hématologie. Alors, le but de cet échange plasmatique, le but de ces échanges plasmatiques est donc de séparer le sang en plasma d'une part et en éléments cellulaires d'autre part. On utilise la technique de centrifugation pour séparer les composants du sang. Et donc, le patient est connecté à une machine que vous voyez ici, qui est une machine qui ressemble un peu à une circulation extracorporelle. Vous avez donc le sang qui passe, il y a un anticoagulant qui est rajouté, il passe dans la machine. C'est là que le plasma est séparé des éléments cellulaires. Les éléments cellulaires sont remis en circulation et la solution de remplacement au plasma est une solution d'albumine qui est donc ramenée dans la circulation maternelle. Alors, ces échanges plasmatiques nécessitent évidemment une collaboration multidisciplinaire avec notamment notre collègue hématologue qui va déjà valider l'indication. Et puis, on va discuter du nombre de traitements qui va être déterminé en fonction de l'âge gestationnel et ensuite de l'évolution clinique. En pratique, ces échanges plasmatiques doivent être réalisés de l'ordre de 2 à 3 fois par semaine. Dans le cadre de la patiente enceinte, ça a été validé. Donc, on préfère un accès périphérique. On utilise la technique de centrifugation plutôt que la technique à travers une membrane parce que le débit de prélèvement est plus faible, ce qui permet de limiter le risque d'hypotension et de modification de la perfusion placentaire. On utilise une anticoagulation qui est l'acide citrate dextrose. Le volume traité dépend de la tolérance, mais généralement est de 0,8 fois le volume plasmatique total. Et donc la restitution se fait avec de l'albumine, pas avec du plasma parce qu'il y a un risque de réaction. Et donc il y a quand même des pertes de facteurs de coagulation, notamment le fibrinogène ou le facteur 8, et des pertes également d'immunoglobuline. Et donc il est décrit en tout cas comme effet potentiellement secondaire un risque hémorragique dans le décours immédiat de la plasmaphérèse ou un risque majoré d'infection, chose que nous n'avons pas retrouvée dans notre étude que je vous présenterai après. C'est une procédure donc du fait de cette centrifugation qui est plus lente et qui voit qu'il prend en moyenne de 90 à 120 minutes. Alors, le coût en Belgique de cette procédure en 2014, elle est grosso modo par échange plasmatique de 600 à 650 euros qui sera pris en charge par le système de sécurité sociale belge, alors que les IVGAM sont totalement non remboursées en Belgique et donc elles doivent être données par les firmes à titre compassionnel et c'est de plus en plus difficile, raison pour laquelle l'étude que je vais vous présenter ne tient pas compte justement de la présence d'IVGAM associée à ces échanges plasmatiques. Alors le but évidemment du traitement, c'est d'essayer de diminuer l'agressivité de la pathologie en diminuant le taux d'anticorps circulant. D'essayer donc de retarder l'apparition d'anémies notamment sévères et surtout les anémies en dessous de 5 grammes d'hémoglobine puisqu'on sait, et je pense qu'on en parlera plus tard dans la journée, que c'est ces anémies-là qui sont le plus à risque de morbidité et de mortalité fœtale. Et alors, comme Jean-Marie l'a dit, d'atteindre un âge gestationnel plus tardif pour la première transfusion in utero, afin que les chances de succès de cette transfusion soient majorées. Le rationnel de cette thérapeutique, c'est évidemment que la sévérité de l'hémolyse fœtale doit être étroitement liée à la charge d'anticorps circulants, ce qui est discuté quand même dans la littérature. Par contre, ce qui est plutôt bien établi, c'est que la pathologie est de plus en plus agressive au plus on a de grossesse chez la même patiente. Alors, notre expérience, je vais vous présenter, donc ça remonte sur les 8 dernières années, on a donc 22 patientes et 23 grossesses, donc il y a une patiente qui a eu 2 grossesses, qui ont bénéficié de ces échanges plasmatiques. Alors, les indications, il y avait 3 groupes principaux et on va les détailler de manière séparée. Le premier, ce sont les 3 premières patientes, donc c'est le groupe en rouge. Ce sont des patients qui nous sont référés relativement tardivement avec des signes d'anémie très sévères. Le deuxième groupe, ce sont des patientes qui ont des antécédents lourds, soit de pathologies sévères de prise en charge nécessitant des transfusions in utero, ou bien de mort in utero précoce. Ça correspondra à 11 patientes, ce sera le groupe bleu. Et enfin, on a fait un troisième groupe, qui est un groupe, on va dire, un petit peu plus expérimental, qui sont en fait des patients qui nous sont adressés en début de grossesse, mais avec des taux déjà relativement élevés d'anticorps, et qui va donc bénéficier de cet échange plasmatique pour essayer de minimiser ces anticorps circulants. Alors, le taux de survie global de l'étude est très bon, puisque vous voyez que 22 sur 23 patients ont survécu, donc soit 95%, et on a eu donc une mort in utero à 21 semaines après transfusion in utero. Alors, j'ai quelques tableaux un peu barbares à vous présenter, mais je vais essayer de vous les commenter pour que ce soit un petit peu plus facile. Voilà les données démographiques de l'étude. Donc, vous voyez que c'est des patients qui sont relativement âgés, donc au-delà de la trentaine, et ce sont toutes des patients qui sont généralement multipares. Dans le groupe bleu, ce sont le groupe avec les antécédents. Vous voyez effectivement que ces patientes ont des morts in utero, parfois plusieurs, ou des accouchements prématurés suite à une iso-immunisation sévère. Ce sont des antigènes, généralement la majorité, ce sont des antigènes D. On a 3 KEL et un petit C. Et vous voyez que tous ces enfants, chez Jean-Marie, ont des anticorps avant la plasmaférèse qui sont extrêmement élevés. Vous voyez que l'âge moyen d'engagement des plasmaférèses est de 12 semaines, mais ça varie entre 6 et 29 semaines dans l'étude, et que le nombre de procédures qui vont être faites par grossesse est de l'ordre d'une trentaine, mais entre 5 et 84. Le rythme, vous voyez, c'est en moyenne chaque fois 2 fois par semaine. Il y a une patiente qui a bénéficié de 3 fois par semaine et une autre patiente d'une seule fois par semaine. On en discutera un petit peu plus tard. On n'a pas noté d'effets secondaires particuliers chez les patientes. On a certainement une fatigue assez importante, donc ça c'est la plainte majeure des patientes. Et alors l'accès vasculaire, puisque ces patientes doivent être piquées à chaque échange, on ne laisse pas un cathéter en place, et donc avec le temps, si les veines deviennent de plus en plus difficiles, ça devient compliqué. Le premier groupe, le groupe donc des fœtus qui nous sont adressés pour une anémie sévère. Donc vous voyez, c'est une pathologie qui est sévère, puisqu'on a 2 fœtus qui sont en hydrops, et un qui a une Vmax très pathologique au-dessus de 2 mom. Vous voyez qu'elles nous sont référées relativement tardivement, c'est-à-dire aux alentours de 22 semaines en moyenne, mais aux alentours, en tout cas au-delà de 20 semaines, sauf le premier à 18. Elles ont des taux d'anticorps extrêmement élevés à l'admission, et donc elles vont devoir bénéficier d'une transfusion in utero rapide, et on s'est dit, tiens, dans ce cadre-ci, puisque c'est une pathologie extrêmement agressive, avec, vous voyez, des anémies à la première transfusion qui sont très sévères, 2.5, 4.1, donc aux alentours de 2.8 en moyenne, eh bien, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de freiner la pathologie, puisqu'on est dans une forme extrêmement sévère. Et on se rend compte, effectivement, que le taux d'anticorps que vous voyez ici est bien stabilisé par les échanges plasmatiques, puisque, grosso modo, on diminue de titres. Mais c'est des grossesses qui vont quand même nécessiter un certain nombre de transfusions. Mais c'est des enfants qui sont néanmoins vivants, vous voyez, avec une prématurité modérée entre 32 et 36 semaines. Il faut noter néanmoins que l'enfant qui a présenté cette hémoglobine à 1,8 a présenté une hémorragie cérébrale avec donc un risque de séquelles neurodéveloppementales qui est réel. Mais donc voilà, ce ne sera pas le sujet, on en rediscutera peut-être plus tard avec le docteur Lopiore. Alors, donc, pour résumer, donc, anémie fœtale très sévère lors de la première transfusion in utero, un nombre moyen qui reste élevé de transfusion in utero, un début tardif, vous verrez, par rapport aux autres groupes de la plasmaférèse, mais on a quand même un bon contrôle des anticorps et une naissance à 100% d'enfants vivants. Alors, le deuxième groupe, c'est le groupe des antécédents. Alors là, je l'ai séparé en deux groupes. C'est d'une part les patientes qui ont un antécédent d'iso-immunisation sévère. Donc vous avez cette partie-ci qui est la grossesse précédente et la grossesse actuelle qui est la grossesse sous plasmaférèse. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ce sont toutes des antécédents de patientes qui ont été polytransfusées pour la première grossesse. On voit que dans la grossesse actuelle, on a pu commencer les plasmaférèses assez tôt. Vous voyez qu'à un âge moyen de 9 semaines, entre 6 et 11, et que le taux d'anticorps au départ est quand même relativement sévère également. Dans ce groupe-ci, on échoue par contre à monter un bénéfice, notamment à retarder l'âge moyen des transfusions in utero. Donc vous voyez ici que l'âge moyen de la première transfusion in utero est de 24 semaines. Pour la grossesse précédente, c'était 29 semaines. On échoue également à limiter la sévérité de l'anémie au moment de la transfusion in utero. Vous voyez qu'on est à peu près à 6,9 g, oui, c'est un peu loin, à 6,9 g d'hémoglobine, alors que la première transfusion était à 9,9. Donc on échoue à diminuer cette anémie, et alors on échoue également à stabiliser le taux d'anticorps, puisque vous voyez que les taux d'anticorps ici ont continué à monter malgré la plasmaférèse. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde les taux d'anticorps en début de grossesse, la pathologie ici est plus sévère qu'elle ne l'était lors de la grossesse précédente, et que malgré la prise en charge qui n'a pas l'air d'être nettement favorable, on a quand même des résultats qui sont extrêmement satisfaisants, puisqu'on a des enfants qui naissent vivants, et vous voyez la majorité aux alentours de 36 à 37 semaines. Le deuxième groupe des antécédents, c'est celles qui ont perdu un fœtus par mort in utero précoce, et vous voyez effectivement que ces patientes ont toutes perdu un fœtus, vous voyez, relativement précocement, aux alentours de 22 semaines d'âge moyen. On voit de nouveau qu'on va pouvoir commencer les plasmaférèses de manière très précoce, aux alentours de 12 semaines de moyenne, mais vous voyez que les premières peuvent commencer déjà à 6 ou 7 semaines. Et vous voyez que le nombre moyen de plasmaférèses est important, puisqu'on est à 43, il y a même une patiente qui a été jusqu'à 84 plasmaférèses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, on voit que de nouveau, en termes de valeur d'anticorps, là, ici, on arrive par contre à diminuer les taux d'anticorps circulants en fin de plasmaférèse, et que le taux de transfusion in utero qui a été réalisé est relativement faible. On est aux alentours de 2 transfusions in utero en moyenne pour ces grossesses. Vous voyez également qu'il y a 2 patientes qui, moyennant cette plasmaférèse, ont pu éviter des transfusions in utero, et on améliore clairement dans cette population-ci notre taux de survie, puisqu'on passe de 0% à 80%, puisque dans le cas de la patiente numéro 13A, c'est cette patiente qui a perdu son bébé suite à la première transfusion in utero. Alors, voilà pour vous montrer l'évolution de certains cas qui sont intéressants. Donc, le premier cas, c'est la patiente record en termes de plasmaférèse. Vous voyez, 84 procédures. Vous voyez qu'on arrive relativement bien à stabiliser le taux d'anticorps circulant jusqu'à la fin de la grossesse. Et vous voyez ici que la Vmax n'a jamais dépassé 1,5 mom. C'est une patiente qui avait perdu un bébé à 20 semaines pour un anti-grand M, et l'hémoglobine à la naissance était de 14 avec une âge gestationnel de 37 semaines. Ça, c'est les cas de la même patiente. La première, où on a perdu le bébé. Donc, vous voyez effectivement que la plasmaférèse a été initiée relativement tôt, mais qu'au début, l'efficacité a été moyenne, ensuite meilleure. Mais malgré tout, à 21 semaines, on se retrouve avec une Vmax pathologique. On doit faire cette transfusion in utero et le bébé décède dans le décours. Lors de cette grossesse, les échanges plasmatiques étaient de l'ordre de 2 fois par semaine. Elle revient enceinte, une quatrième grossesse avec 3 morts in utero. Et là, on a décidé de passer un échange plasmatique à 3 fois par semaine. Et vous voyez ici qu'on obtient une bonne stabilisation des anticorps. Et étonnamment, pour cette grossesse-ci, on a réussi à éviter la transfusion in utero. Et donc, lorsque la Vmax a monté à 32 semaines, elle n'est pas reprise ici, la patiente a préféré, vu les antécédents de mort in utero suite à la transfusion de la grossesse précédente, une extraction, et donc elle a eu une césarienne élective à 33 semaines avec un bébé qui était légèrement anémique, 10.7, mais donc avec un succès réel. Pour terminer, le dernier tableau, ce sont le groupe 3, un peu plus expérimental, puisque ce sont des patients qui nous sont adressés relativement précocement, mais avec des taux d'anticorps déjà assez élevé, au-delà d'1 sur 512. Alors, il y a 2 cas particuliers. Si vous regardez le nombre de plasmaférèse, vous voyez que la majorité en ont beaucoup, sauf 2. Le premier, c'est le cas 17. Le cas 17, elle nous est adressée pour un taux élevé d'anticorps antiquel. Et on l'a donc mis sous plasmaférèse. Et le foetus est revenu petit K, ce qui veut donc dire qu'on a décidé d'arrêter la plasmaférèse, raison pour laquelle elle n'a eu que 6 plasmaférèses. Vous voyez qu'elle avait également un antidé à 1 sur 16. Et cet antidé a finalement nécessité quand même une transfusion in utero tardive, juste avant la naissance. Donc ça c'est un cas qui perturbe un petit peu, on va dire, les moyennes ici. Et le deuxième cas, c'est le cas numéro 21, qui est une patiente qui est homozygote pour la drépanocytose. C'est une patiente qui avait donc des voies d'accès périphériques extrêmement compliquées, et donc on n'a pas pu faire des plasmaférèses de manière aussi intensive, une fois par semaine. Elle en a eu de 18 à 23 semaines, et puis la première transfusion a été nécessaire, et donc on a arrêté les plasmaférèses dans le décours. C'est ce qui est généralement conseillé, c'est effectivement de faire la plasmaférèse jusqu'au moment de la première transfusion in utero, et puis après ça, une fois que les transfusions sont commencées, généralement on arrête la plasmaférèse. Ce serait une des questions pour se dire est-ce que c'est la bonne technique. Et donc, si on regarde ici, on regarde qu'on a de nouveau un taux moyen d'échange plasmatique de plus de 30 si on retire les 2 cas ici. Vous voyez que c'est des plasmaférèses qui sont commencées précocement. Vous voyez que on n'a pas de cas de contrôle, mais effectivement, on pourrait suspecter que l'échange plasmatique permettrait de diminuer, en tout cas de stabiliser les taux d'anticorps quand on regarde l'évolution des anticorps, sauf pour le cas numéro 16. Peut-être de retarder la première transfusion in utero, on ne sait pas comparer, mais on se rend compte effectivement que la première transfusion in utero a lieu relativement tard, hein, 27 semaines, et d'éviter des anémies trop profondes, puisqu'on a une 8.4 de moyenne, éventuellement de limiter le nombre de transfusions in utero, puisqu'on est à 2.7 de moyenne. Ce sont évidemment que des supputations, puisqu'on n'a pas de cas contrôle pour pouvoir valider ça, mais de nouveau, ici, on se retrouve avec 100% d'enfants vivants avec une prématurité légère. Et vous voyez qu'il y a 2 cas de nouveau qui ont pu éviter la transfusion in utero, moyennant ces échanges plasmatiques, 39 ici, 19 ici. Vous voyez que les anticorps sont relativement bien contrôlés et des Vmax qui restent en dessous du facteur de 1.5 mom. Alors ce petit cas pour terminer, c'est pour vous montrer effectivement ce qui se passe lorsqu'on décide d'arrêter les plasmaférèses. Donc vous voyez, cette patiente a bénéficié de plasmaférèses jusqu'à la première transfusion in utero qui a eu lieu à 25 ou 26 semaines. Vous voyez qu'après, les taux d'anticorps se mettent à exploser. Et vous voyez que cette patiente a dû bénéficier de transfusions in utero répétées pour récidive d'anémie fœtale. Et finalement, ce bébé a été extrait à 32 semaines avec une hémoglobine de naissance à 13.4 et une bonne évolution. Donc ici, on peut clairement se poser la question, quel protocole faut-il adopter? Est-ce qu'il faut réellement stopper les plasmaférèses dès la première transfusion in utero ou bien faut-il les poursuivre après? Alors pour conclure, on voit que, évidemment, comme l'a dit Jean-Marie, depuis l'année 2000, on a des avancées majeures dans la prise en charge de ces pathologies avec une évolution vers une approche minimally invasive. Et donc, effectivement, l'ADN, la recherche du typage fœtal sur l'ADN libre dans le sang maternel remplace la myosynthèse. La Vmax remplace la myosynthèse et le dosage de la bilamnie dans les zones de l'îlet et essayer d'améliorer les techniques de transfusion in utero. Alors, l'utilisation de l'échange plasmatique rentre dans cette optique, hein, essayer d'améliorer la prise en charge non invasive comme les IV et gammes présentées précédemment. C'est donc une technique historique qui est bien maîtrisée, qui a fait ses preuves dans d'autres pathologies pour éliminer des substances pathogènes. Elle peut être utilisée de manière sécure chez la femme enceinte, comme on l'a montré. Il y a peu d'effets secondaires rapportés, essentiellement la fatigue et des problèmes de voie d'entrée. Les autres problèmes, on n'en a pas été vraiment confronté, mais évidemment, c'est une petite expérience, hein, une vingtaine de cas. On va dire l'inconvénient, ça reste évidemment une utilisation intensive des ressources puisque ça nécessite une prise en charge extrêmement agressive et une motivation sans faille de la patiente. Et vous voyez que malgré qu'on est probablement un peu moins cher que les IV gammes, ça reste quand même de l'ordre de 600 à 700 euros par procédure. Et quand on en a 84, comme on l'a vu chez une patiente, ben forcément l'addition est quand même lourde au bout pour la sécurité sociale. Alors, dans notre expérience, on a vu que notre expérience confirme quand même une certaine efficacité à la technique, avec un taux de survie qui est quand même favorable dans des pathologies qui sont agressives, une stabilisation de la charge des anticorps, en tout cas dans 61% des grossesses, avec soit stabilisation, soit régression, et une possibilité même d'éviter la transfusion in utero, on l'a vu, dans 18% des cas. Si on revoit la littérature, c'est comme dans le cas des immunoglobulines. Il y a peu d'études récentes sur la question, mais certainement en thérapeutique isolée. Toutes les quelques études qu'on retrouve, c'est des études qui remontent, vous voyez, d'un certain temps, peut-être on va dire la préhistoire de la médecine fœtale. Et dans les études plus récentes, on peut dire qu'il y a clairement quand même un effet stabilisateur qui permet de limiter l'agressivité de la pathologie avec des améliorations globales de la survie. Néanmoins, la majorité des publications qui sont faites actuellement sont des associations entre l'échange plasmatique et les IV gammes. Et là, il faudra évidemment bien évaluer le rapport coût-bénéfice, puisque si on rajoute les IV gammes en plus aux échanges plasmatiques, ben, l'addition elle va vite se faire sentir. Alors, si on reprend les guidelines qui ont été remis à jour là en 2016 de l'American Society of Apheresis, ben, vous voyez qu'eux proposent l'utilisation des échanges plasmatiques dès 7 semaines jusqu'à 20 semaines ou plus, jusqu'à ce que la transfusion in utero puisse se faire de manière sécure. Mais c'est un avis de catégorie de niveau 3, c'est-à-dire que ça n'a pas établi comme étant quelque chose prouvé sur des études, comme on l'a dit, randomisées. Et donc, c'est une décision qui doit se faire de manière individualisée. Alors, les dernières questions qui se posent, ben voilà, pour qui ? Et donc, effectivement, il faut essayer d'identifier les formes les plus sévères. Et je pense que dans les marqueurs biologiques, il y a peut-être des progrès à faire. On va peut-être en discuter un peu plus tard. Comment, de manière isolée ou associée aux IV gammes ? C'est vrai que quand on lit la littérature, l'association aux IV gammes a l'air d'être un petit peu plus favorable. Mais il faut voir un petit peu par rapport au coût de ce qu'on gagne. Et quand, ben, dès cette semaine, on l'a prouvé. Et puis, jusque quand, ça c'est la question, faut-il arrêter dès qu'on fait la transfusion in utero ou la poursuite au-delà jusqu'à la fin de la grossesse? De nouveau, il faudrait faire des études pour évaluer ces coûts-bénéfices. Voilà, je vous remercie.
Merci. Donc, on va demander au professeur Joannick de peut-être remonter pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai juste une question sur les immunoglobulines. Vous n'avez aucun problème avec vos pharmaciens pour obtenir dans cette indication-là les immunoglobulines ?
Non, parce qu'en fait, si tu veux, il y a un système de prise en charge spécifique T2A qui fait qu'il y a une prise en charge spécifique qui va être faite et que ça ne va pas être imputé sur le budget de fonctionnement du pôle. Ou sinon, ce serait impossible.
Chez nous, ce n'est pas possible pour cette raison-là. On n'a aucun financement et dès le moment où on ne sait pas s'en procurer... À titre compassionnel auprès des firmes, on ne s'est pas proposé.
Pas de financement, pas d'AMM, pas de...
Il y a juste un commentaire que je voudrais faire, parce qu'on a longuement échangé là-dessus avec Cécile Tolly. Ce qui est quand même assez intriguant, c'est qu'on a à peu près la moitié des femmes qui sont bonnes répondeuses, entre guillemets, en tout cas sur la décroissance des anticorps, pour lesquelles on a souvent un décalage du terme à la première transfusion. Et puis pour les autres, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais que c'est compliqué et puis que ça a été... vous avez compris que l'introduction des vitesses a arrêté plein de choses, en fait, dans la recherche et le développement. Parce qu'on s'est dit, bon, voilà, c'est génial, on a réglé le problème, on fait tout en non-invasif. Mais derrière, on garde malgré tout des procédures invasives avec une morbide mortalité qu'on ne peut pas ignorer. Mais quid, Cécile, est-ce que tu peux nous dire un mot rapide sur une approche sur l'étude de cytotoxicité des anticorps qui permettrait peut-être de sélectionner les patientes qui seraient éligibles ou pour lesquelles on pourrait attendre une réponse plus favorable?
C'est pas le topo d'après? c'est le topo d'après, oui. Bon. C'est une bonne transition, merci beaucoup.
Ok, donc on en discutera après alors. Et puis enfin, le dernier papier là, de l'équipe de Moïse, qui combine les deux, a l'air quand même très très... c'est assez convaincant ce qu'il présente avec des échanges qu'il va faire jusqu'à... Alors je crois qu'il le fait pendant les deux ou trois premières semaines, très précocement comme vous, et puis ensuite il fait le relais avec les immunoglobulines. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ça. Et vous avez eu aucun accident de variation hémodynamique? Donc, vous le monitorez ça un peu ou pas?
Elles ont normalement leur échographie avant. Hein, donc c'est vrai que puisqu'il y a quand même il faut essayer d'éviter de faire la plasmaférèse et de devoir faire la transfusion in utero dans la foulée. On l'a vu au niveau hémorragique, même si la synthèse des facteurs